Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Combien de temps vous passez sur votre téléphone par jour? Je ne sais pas si vous regardez le rapport que vous envoie votre téléphone en général toutes les semaines. Est-ce que vous êtes addict? Est-ce que peut-être votre partenaire de vie est addict, vos enfants, vos amis, vos collègues, je ne sais pas. Moi, j'ai clairement un problème. Je vous le dis là entre nous, vous allez l'entendre dans l'épisode, où je reçois Kenneth Schlenger, qui est un start-upper qui a créé une application qui s'appelle Opal et qui vous permet de limiter vos usages de votre téléphone portable. Ça peut sembler étrange comme ça au premier abord de se dire que vous avez besoin d'une app ou qu'on a besoin d'une app pour limiter ses usages, et pourtant vous allez comprendre pourquoi c'est le cas et qu'est-ce que ça peut changer dans votre vie. C'est quoi l'usage de votre téléphone? C'est quoi l'impact d'utiliser votre téléphone en permanence? Vous allez vous rendre compte que finalement, ça a des usages évidemment extrêmement positifs, mais aussi des impacts extrêmement négatifs. Je vous laisse écouter la conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Kenneth, comment ça va?
Bonjour Greg, ça va très bien et toi?
Ça va bien. Combien de temps je suis passé sur mon téléphone aujourd'hui? Attends, je vais regarder.
Très bonne question.
Je pense que pour démarrer cette conversation, je pense que voilà. Ma moyenne quotidienne est à 5h27.
Ok.
Voilà. Et je ne sais pas aujourd'hui précisément. Ça ne me dit pas. Aujourd'hui, bon, moins, parce que évidemment. Aujourd'hui, je suis à 3h14, mais il est 15h30.
Eh bien, écoute, c'est un début. C'est un début. Tu te situes un peu au-dessus de la moyenne.
Oui, c'est sûr.
Mais c'est pas trop mal. Ça va.
Donc on va parler de l'addiction aux écrans. Moi je me défends toujours en disant bah oui, mais moi je travaille avec mon téléphone, tu vois, faut que je sois sur Instagram, tout ça. Mais en vrai, bon, c'est pas une très bonne excuse. Je pense qu'on est tous les gens qui ont un smartphone, on va dire. Plus ou moins d'ailleurs, parce que je connais plein de gens qui sont pas du tout addicts. Mais dès que tu commences à être actif sur les réseaux sociaux, ça crée de l'addiction. Alors la problématique que je me pose, c'est est-ce que c'est les réseaux sociaux qui créent de l'addiction ou est-ce que c'est le téléphone en lui-même qui crée une addiction?
Ouais. Déjà, je pense que pour te rassurer, tu n'es pas le seul. La plupart des gens, je pense, tu as raison, sont d'une certaine manière, ont une addiction. Et des addictions, ça peut aussi être quelque chose qui a un sens bénéfique. La technologie, on l'utilise parce que c'est incroyable, ça nous permet de faire des choses qui sont folles. Le problème de ces technologies, c'est qu'elles ont été conçues pour être addictives. Et on peut en parler un peu plus. Mais le problème pour moi, il se situe au moment où, si tu veux, tu sors ton téléphone, tu ouvres Instagram par exemple, et 30 secondes plus tard, tu dis « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne sais pas pourquoi je suis là. » Et je viens interrompre quelque chose d'important. C'est ça le problème. C'est le problème de l'intention, en fait. Il faut être très intentionnel dans la manière dont on utilise la technologie, s'assurer qu'on est en contrôle, qu'on est en train d'utiliser l'outil et que ce n'est pas l'outil qui nous utilise. Et c'est ça qui est dur.
Moi, ce que je remarque dans mes usages, souvent, j'ai besoin d'aller sur Instagram. Parce qu'en fait, le problème maintenant, c'est que les gens écrivent sur 15 000 plateformes différentes. Donc déjà, parfois, je ne me souviens plus d'où les personnes m'écrivent. Mais parfois, je vais sur Instagram avec une raison précise et je me fais happer. C'est-à-dire qu'en fait, je pars ailleurs.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais,
et je suis là, genre, attends, pourquoi je suis sur Instagram déjà? Ou sur LinkedIn, ou je ne sais où, tu vois, enfin, peu importe l'application. Et je suis là, genre, mais qu'est-ce que je voulais faire déjà? Enfin, tu vois, ce truc. Et ça, c'est assez incroyable. Et ce que je trouve intéressant, et j'aimerais bien que tu réagisses, il y a cette phrase qui dit, enfin c'est une phrase, pas vraiment une phrase, mais c'est une citation. On a des cerveaux ou des émotions paléolithiques, des institutions médiévales et des godlike technologies, je sais pas trop comment dire, des technologies comme Dieu ou en tout cas des technologies qu'on maîtrise pas du tout. Ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi?
Ouais, je pense que c'est le fondement du problème, c'est-à-dire que la technologie continue à évoluer, continue à s'améliorer. On a des choses incroyables qui sortent tous les jours, chaque semaine, et qu'on a envie d'utiliser, qu'on utilise de manière très positive. Mais on n'a pas forcément évolué d'un point de vue biologique pour pouvoir consommer l'intégralité de cette information, pouvoir en faire, avoir du sens, créer du sens à partir de cette information, et trouver un équilibre. C'est vraiment le corps du problème. Et c'est, je connais bien cette citation. C'est un chercheur qui s'appelle Edward Wilson, qui était le père de la sociobiologie. En fait, ce qui est intéressant, c'est que lui, il se posait la question de comment interpréter des comportements sociaux à partir des fondements biologiques. Et c'est vraiment ça le corps, c'est que en fait, aujourd'hui, on a les technologies qui nous permettent de consommer une quantité d'informations absolument illimitée, mais on a les cerveaux qui sont pas forcément adaptés pour ça. Et ça crée un ensemble de problèmes, des problèmes individuels et des problèmes sociaux. Les problèmes individuels, c'est on est surmené, burn-out, c'est des problèmes de santé mentale. On a une crise de santé mentale aujourd'hui dans l'intégralité du monde occidental. Et des problèmes sociaux, à mon avis, qui sont très liés à ça aussi, qui sont parce qu'on est surmené, parce qu'on est bombardé d'informations, on n'est plus capable nécessairement de séparer le vrai du faux. On n'est plus capable de raisonner, on n'est plus capable d'être en fait des acteurs qui vont faire fonctionner les systèmes comme la démocratie. Donc c'est des problèmes qui sont à la fois individuels, des problèmes qui sont sociaux. Et à mon avis, cette phrase que tu viens de citer, c'est le fondement en fait de beaucoup de ces problèmes.
Ça gêne souvent les gens quand on leur dit... mais tu sais, tu peux te faire manipuler. Tu sais, on a l'impression, on a quand même cet ego de se dire, attends, mais non, mais moi c'est pas pareil. Je maîtrise complètement ce que je fais. C'est totalement en conscience. Quand je vais sur Instagram, je sais ce que je fais. Quand je passe du temps sur TikTok, qui est encore plus addictif, je sais ce que je fais, etc., etc. Ils veulent pas accepter l'idée que, en fait, ils sont en train d'être manipulés par un algorithme.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Pas le fait que les gens soient n'acceptent pas d'être manipulés, mais est-ce que tu peux nous expliquer la manipulation?
Bien sûr, bien sûr. Oui, je pense que c'est enfin, une autre analogie que j'aime bien, c'est que ça, quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu as déjà été influencé par une publicité, par exemple, tout le monde va dire non, jamais.
Pas du tout.
Moi, je clique jamais. C'est pas pour moi. Ça, c'est pour les autres. Ils sont, c'est pas pour moi. Mais la réalité, c'est que c'est une industrie énorme qui effectivement change le comportement des gens. Mais on a une illusion de contrôle qui est très claire. Et c'est d'ailleurs en fait la clé des business models des entreprises qui sont parmi les plus gros success stories des dernières années, enfin, dont Facebook et beaucoup d'autres boîtes de l'économie de l'attention. C'est en fait que c'est complètement imperceptible. Il y a Tristan Harris, le fondateur de ce mouvement qui s'appelle Humane Tech, qui a aussi créé sur Netflix ce show que vous avez probablement vu, qui s'appelle The Social Dilemma, qui parle de ces sujets-là, mais qui parle en fait de changements imperceptibles sur le comportement. Et imperceptible, c'est très important. C'est-à-dire que c'est en fait comment créer de la technologie qui va être effectivement très addictive, utilisée et très utile, donc Instagram, Facebook, Google d'une certaine manière et beaucoup d'autres, et qui